à l'intermédiaire de S2, il est en lien avec petit a. Si nous considérons maintenant, non pas les termes, mais les places, elles peuvent être toutes occupées par chacun des termes. Mais seul un discours donne à chacun de ces termes une place spécifiée. Ainsi, S1 ne peut être à la place d'agent que dans le discours du maître. Et cela implique du coup que A soit celle du produit, etc. Il faut préciser maintenant que dans un discours donné, quel qu'il soit, excepté le capitaliste, une relation est exclue, celle qui va à la place de la vérité. Cette place, vous le voyez, cause la ronde des trois partenaires, la ronde qui part d'elle, mais il lui est impossible d'entrer dans cette ronde en tant que telle, tout comme il est impossible aux autres de l'y inclure. D'où le petit schéma que j'ai fait ici pour vous expliquer cette pour vous montrer plutôt, vous faire voir cette impossibilité. La place de la vérité, en bas à gauche donc, n'a aucun partenaire dont elle puisse recevoir quelque chose qui aiderait à la définir. Alors pour donner un peu de chair à la chose, j'illustre cela maintenant avec les effets sur le sujet. Dans le discours du maître, vous le voyez, le sujet est supposé à la place de la vérité. Mais de cette place, il n'a rien à dire depuis cette place. Il n'a rien à dire et ne peut que se soumettre et se taire. À ce prix, il peut commander secrètement au maître, un maître qui ne peut rien contre lui, puisque, et l'idée, il reste toujours hors de sa portée. Le maître n'y atteint pas. Dans le discours hystérique, le sujet en position maîtresse crie, mais il crie pour ne rien savoir de la vérité de ce qui le fait crier. Dans le discours universitaire, le sujet peut se réclamer de tous les savoirs qu'il veut. Il ne sera jamais un maître et il lui reste ou à le supporter ou à se révolter. Dans le discours analytique, le sujet trouve la liberté de dire enfin ce que depuis toujours il voulait dire et qui lui était resté en travers de la gorge jusqu'à lui lier et lui faire fourcher la langue, au moins jusqu'à Freud. Le sujet dans le discours analytique peut y dire que le savoir de sa cause lui reste inarticulable et même il peut s'y faire. Le discours du capitaliste, maintenant. Il n'y a pas d'impossibilité, vous le voyez. Toutes les places et tous les termes y sont en lien circulaire. C'est ce qu'il caractérise et qui fait qu'il n'est pas seulement différent des autres, de ces autres qui partagent en commun une impossibilité, mais qu'il est autre dans sa structure. Avec lui, le discours du capitaliste, un terme se met en relation avec d'autres, n'importe lesquels, et il n'a nulle obligation d'en exclure un. Nulle obligation de sacrifier une part de ce qui constitue le parlant. Nous pourrions nous réjouir d'être ainsi allégés de l'impossible. Nous réjouir si nous oublions qu'il existe cet impossible de structure. Il est toujours impossible d'homogénéiser le réel et le signifiant. Les discours ne font que mettre cela en forme, et le hors-discours de la psychose n'échappe pas à cette impossibilité, malgré les efforts délirants du sujet. À l'impossible est corrélé, c'est de la clinique là, est corrélé un affect qui fait limite, et qui touche le sujet par son corps, l'angoisse. Nous en connaissons les traductions négatives, symptomatiques, d'impuissance, de tristesse et de honte. Pour les quatre discours non circulaires, le sujet court toujours le risque d'en avoir méconnu les limites et de s'en retrouver, pour sa honte, exilé. Intéressons-nous donc un peu à cette honte. Celle du maître répond à la révélation de sa division, que ce discours ne recouvre plus de son voile de pudeur. Mais que devient-elle, la honte, dans un discours où rien n'est impossible ? La honte foreclose dans ce discours du capitaliste ferait-elle retour dans le réel sous forme d'obscénité ? Nous pouvons en tout cas constater que la collectivité, via les médias, semble bien tracassée par ce phénomène, à tous les niveaux. Ainsi, il semble bien qu'on ne considère plus les maîtres qu'à partir de la honte qu'ils devraient éprouver s'ils étaient dignes de leur fonction. Chaque jour qui passe, et ce soir même peut-être, se démontre qu'en fait ces maîtres sont comme tout le monde, menés par des intérêts personnels médiocres, autrement dit, ils sont des usurpateurs. Le maître mot du discours du capitaliste ne se cache pas, mais au contraire, il s'exhibe dans sa vérité dernière. Ce maître mot, c'est l'argent. Du coup, le sujet agent n'y est plus un semblant. Le sujet agent n'est plus obligé de se soutenir uniquement par les liens qu'il peut entretenir avec ceux qui sont logés comme lui à la même enseigne de vérité inaccessible. Il faut reconnaître que l'argent, comme vérité dernière, a beaucoup d'avantages. Il se compte, on le sait, un sou est un sou. On sait comment le manier et à quoi il sert. Il sert à tout, puisque tout peut s'acheter. La question n'est plus de savoir pourquoi en avoir, à quoi il sert, puisque la réponse s'impose, il sert à en fabriquer encore, à n'importe quel prix. En plus, il donne une méthode infaillible pour classer les individus en fonction de leur valeur. D'ailleurs, à ce propos, remarque personnelle, je ne trouve pas du tout démocratique que seuls les riches aient le droit d'être classés selon leur fortune. Nous devrions, il me semble, tous exiger d'urgence un bracelet connecté avec une application qui afficherait à chaque instant notre place parmi les quelques 7 milliards et plus que nous sommes sur la planète. De même, la question de la vocation n'est plus de savoir ce qui pour un sujet a le plus de prix, puisque tout prix se réduit à sa valeur monétaire. Et le savoir-faire du sujet prolétaire ne sert dans ce discours du capitaliste qu'à son augmentation de valeur monétaire, jusqu'à en faire quelqu'un de bancable, comme on dit aujourd'hui, et du coup il devient un people. Quant à la place de la honte dans le champ privé, ce champ privé qui était auparavant celui de la sexualité, tout le monde en parle. Des magazines de plage jusqu'au scrutateur de l'époque, en passant par le Vatican. Le dernier thème en date, il me semble, est la prostitution adolescente. Les nombreux articles qui viennent de paraître et qui en parlent mettent toujours en avant les contraintes exercées par les garçons sur des filles que leurs besoins d'affection égarent. Il n'est pas sûr que cette lecture, qui repose sur une répartition des tâches et des rôles sexuels que fournit le discours du maître, il n'est pas sûr que cette lecture soit la bonne, et même elle risque d'empêcher nos chers éducateurs de comprendre ce qui les intrigue tellement, le fait que ni les uns, les garçons, ni les autres, les filles, n'aient honte. Bon, il reste la limite de la pédophilie qui concentre sur elle tout l'opprobre. Après les commentaires des flèches, voyons, si vous voulez bien, ce que nous dit ce discours du capitaliste des échanges entre ces termes. L'autre, c'est-à-dire les parties à droite, l'autre y reste le même que dans le discours du maître, S2 sur petit a. Mais, contrairement au discours du maître, l'objet produit ne revient pas au maître, qui lui donne dans le discours du maître sa valeur symbolique. L'objet produit revient au sujet, dans sa division. Je passe là sur les différences radicales que nous pourrions développer entre l'esclave du discours du maître et le prolétaire du discours capitaliste. Dans ce dernier, le sujet, pour surmonter le manque de sens qui accompagne la consommation de l'objet, doit s'en rapporter au S1 qui donne ce sens en le nommant. Mais on le sait, un sens n'a de valeur que par l'autre signifiant, qui est là le prolétaire, donc toujours une valeur monétaire, celle de son corps. D'où la boucle infernale de la soif du manque à jouir, où tout ce qui est supposé l'étancher la renforce, comme l'eau de mer que boirait le naufragé. Pour résumer, le discours du capitaliste constitue bien un lien social, puisque c'est un discours. Mais comme il se passe de tout semblant, le sujet n'a besoin de nulle scène où se représenter en lien avec les autres, et il ne l'a pas. Du coup, la hâte, cette hâte à laquelle Lacan a donné une si grande place, la hâte n'a plus le sens de rendez-vous à ne pas manquer, elle consiste à satisfaire la nécessité surmoïque d'alimenter la rotation du discours. Quelle est alors l'éthique du discours capitaliste ? L'égalité de tous ou au contraire l'affirmation de la singularité de chacun ? La question ne se pose pas. Chacun est au même titre une marionnette. Une marionnette qui fait semblant de se faire un nom alors que ce nom est le même pour tous. Ainsi, comme a pu le souligner Lacan, le sens de la tragédie s'est perdu. Alors que la question de conscience du sujet a de tout temps été de savoir s'il était ou une marionnette ou l'acteur de sa vie. La tragédie, c'est ce que vit un sujet quand il se démontre à lui qu'il n'est finalement qu'une marionnette entre les mains des dieux. La tragédie moderne, c'est quand cet autre n'est plus Dieu mais peut-être n'importe qui. Dieu comme le pire des macros, si c'est né les deux en un. La comédie, c'est quand la tragédie est renvoyée à son statut de représentation, de réalité possible, à laquelle il vaut mieux substituer le rire devant l'increvable résistance de la vie. C'est la comédie, on le sait, qui avait le dernier mot dans le cycle des représentations qui unissait la collectivité. Mais la tragédie n'a plus sa place dans le discours du capitaliste. Et peut-être d'ailleurs la comédie non plus, mais seulement la dérision. Dans le discours du capitaliste, le sujet est certes réduit à son corps, mais il n'est plus la marionnette d'aucun autre, aussi ignoble soit-il. Réduit à son corps, il ne peut que constater que la valeur de ce corps sien, de ce corps, plutôt, la valeur de ce corps pour celui qui le possède et qui n'est pas nécessairement lui-même, la valeur de ce corps est donnée par le marché. Envers de l'habeas corpus, disait Lacan. Lorsque sur le marché un corps ne vaut rien, on l'élimine après avoir effacé en lui tout ce qui pouvait subsister de lien. C'est ce qui s'est joué dans les camps de concentration. Pas si différent, contrairement à ce qu'on dit d'habitude, pas si différent de ce point de vue des camps d'extermination. Les corps y ont été réduits à leur nudité de viande. Et une fois cette réduction opérée, on peut penser à en recycler ce qu'on peut. On peut faire, par exemple, d'un corps, de nos jours, un otage. Non pas les otages antiques, gages d'un pacte symbolique entre deux cours alliés, mais un otage pour le vendre, bien sûr. Je vous suggère de lire le reportage publié par le journal Le Monde, 25 octobre dernier, c'est pas vieux, intitulé « L'enfer secret des otages de l'État islamique ». C'est exactement le processus du camp qui est décrit. Le par-lettre est confronté à sa réduction à sa valeur de rançon, qui peut être plus ou moins importante selon son pays d'origine. Et quand cette valeur se fait nulle, il n'est plus qu'une charogne dont il faut se débarrasser. Dans le processus de torture systématique qui est décrit, torture systématique pour annihiler le sujet, une place particulière est réservée dans le reportage à ce qui s'appelle waterboarding. C'est l'ancien supplice de suffocation. Il a fait ces derniers temps l'objet de beaucoup d'attention parce qu'il est difficile de dire en quoi il est une torture, moyennant quoi certains en ont profité pour dire évidemment qu'il n'en était pas une et que son emploi était licite. Il a eu son heure durant l'Inquisition. Il a été réactualisé par la CIA en Irak et il est maintenant passé dans les pratiques de l'État islamique. Je cite l'article. Cette torture, censée reproduire la noyade, vous savez, on met un tissu sur la tronche de quelqu'un et puis on y verse de l'eau sur le tissu. Donc je lisais, cette torture, censée reproduire la noyade, peut causer une perte de conscience chez les victimes. Je souligne, une perte de conscience chez les victimes. Quand un des prisonniers était emmené, ses camarades étaient soulagés quand il revenait couvert de sang. Là, il y a une citation des témoins. C'est quand il n'y avait pas de sang, indique l'un de ses anciens compagnons de détention, que nous savions qu'il avait eu droit à bien pire. En quoi est-ce bien pire ? Que veut dire, dans ce passage, perte de conscience ? D'autant que, nous le savons, la limite de la douleur physique est l'évanouissement, qui est aussi une perte de conscience. Il faut en croire qu'elles ne sont pas les mêmes. Il faut savoir que la suffocation provoquée donne au sujet le sentiment de se noyer, mais en même temps, elle provoque un spasme du larynx qui l'empêche de se noyer. N'est-ce pas là, hypothèse, question, n'est-ce pas là une réalisation expérimentale de la déchirure subjective qui s'apparente à la terreur et à la douleur morale du mélancolique ? Cette douleur morale bien pire que la douleur physique de l'aveu des mélancoliques. Cela dit, objection. Le bourreau de l'État islamique ne semble pas établir l'argent comme valeur dernière, puisqu'au contraire, il est prêt à tout pour une autre valeur suprême, son Dieu. C'est là que j'en viens à l'hypothèse de l'influence du discours capitaliste sur les autres discours. Examinons, si vous voulez bien, cette hypothèse qu'au lieu de s'opposer aux autres discours, comme les quatre s'opposent l'un aux trois autres, au lieu de s'y opposer, le discours du capitaliste les contamine chacun. Parce qu'il a ce discours, toujours avec chacun des autres, un terme commun, il peut s'accrocher à leurs semblants et se faire leur doublure infernale. Par exemple, vous voyez la solidarité en S1 du discours du capitaliste avec le discours du maître. Cette solidarité qui permet au discours du maître de réduire définitivement au silence l'hystérie du sujet en lui imposant une réponse indiscutable. Par exemple, une réponse sur la façon dont doivent se passer les relations entre les sexes. La solidarité en S barré du discours du capitaliste avec le discours hystérique permet à ce dernier, au discours hystérique, de légitimer sans justification ses décisions intimes, quelles qu'elles soient. La solidarité en S2 du discours universitaire avec le discours du capitaliste absout le savoir de son imposture, une imposture qui n'est plus besoin de dissimuler. Et la solidarité en petit a entre le discours du capitaliste et le discours analytique tient à leur commune réduction de l'objet à un rien de réel. Cela dit, ce rien de réel qu'est la charogne n'a rien à voir avec le rien de réel logique qu'est l'objet A. Mais cela dit aussi, la pulvérulence des associations analytiques n'est-elle pas un symptôme de l'imprégnation des analystes par ce discours du capitaliste qui les rend toujours plus irréconciliables entre eux ? Ainsi, il me semble que nous voyons le discours du capitaliste contaminer, pervertir les autres discours en les rendant chacun toujours plus intraitables sur l'impossible qu'ils affirment, donc plus intolérants les uns aux autres. Par exemple, et pour y revenir, le discours fanatisé, et par là toujours religieux, est-il une résistance du discours du maître au discours du capitaliste ? Pourquoi pas ? Mais alors aussi un discours du maître contaminé par le discours du capitaliste, animé d'une férocité à la mesure même du discours du capitaliste. Ou alors, ce discours fanatisé est-il le lieu où s'hystérise le sujet occidental trop monétisé pour ne pas se sentir démonétisé ? Un sujet alors qui, c'est une référence évidemment à la foule des occidentaux qui vont... On se demande pourquoi, n'est-ce pas, se précipiter là-bas. Ce sujet alors qui, pour obtenir sa part d'existence autre, est prêt non à exposer son corps au médecin, mais à exploser son corps au milieu de tous. Il semble à première vue inutile de se demander s'il relève du discours universitaire. On sait le sort que ces coutumes réservent au savoir. Mais finalement, ne participe-t-il pas plus qu'il ne le croit, ce discours fanatisé, au discours universitaire, au point en tout cas d'y être autant servile au maître que son ennemi occidental ? Alors certes, la civilisation a toujours été malaise, parce qu'elle collectivise l'impossible, et elle est le lieu du choc des discours, ce qui a commencé par le choc du discours du maître et du hystérique. La question est de savoir si la domination du discours du capitaliste ne met pas en question la survie des autres. En particulier, ce qui nous intéresse, quelle place peut occuper le discours analytique qui semble structurellement bien faible puisque son semblant ne peut se caricaturer. Ne risque-t-il pas le discours analytique d'être étouffé ? Lacan l'a dit, nous sommes le poumon artificiel de la science, et c'est de ce qu'elle ne s'en soit pas aperçue que nous subsistons. Le discours du capitaliste pourrait bien finalement s'apercevoir de notre existence et se livrer sur nous à quelques pogroms, ou même, s'il nous ignore, ne peut-il nous rendre tout simplement inaudibles dans la masse ? Avec la psychanalyse, la parole a été donnée au sujet pour qu'il s'essaye à dire son statut d'être en souffrance. La lancée freudienne du discours analytique s'est faite comme le recours du sujet hystérique dans ses démêlés avec le maître. Un maître dont la science, avec le discours universitaire, avait déjà gravement affaibli le prestige. On dit avec raison que Freud a sauvé le père. La relance lacanienne du discours analytique s'est faite comme recours du sujet hystérique dans ses démêlés avec le discours universitaire qui, avec l'aide du discours du capital, avait rompu ses amarres avec l'altérité de la vérité pour la remplacer, cette vérité, par l'unité de valeur. Avec le discours du capitaliste, qu'en est-il de ce sujet ? Comment lui donner la parole alors qu'il ne semble pas être en souffrance, mais au contraire occuper la place maîtresse ? Elle est maîtresse, oui, mais nous l'avons vu, de rien d'autre que de sa valeur comptable. Ce n'est pas rien, et même ça peut toujours être plus. Toujours être plus tant que le déchet est recyclable en marchandise, le sujet est pris en compte et il a sa place. Mais son tourment qui remplace l'angoisse, sa terreur, et d'être forcé de se voir pour ce qu'il est, cette charogne en sursis. Alors, pouvons-nous nous faire les interlocuteurs de ce tourment des sujets du discours du capital ? Comment les encourager à dire ce qu'ils n'osent pas soupçonner, mais qu'ils savent pourtant que leur quête effrénée n'a de valeur que factice ? Comment leur transmettre l'idée que cette quête a bien une valeur fondamentale, celle de témoigner d'un désir qui fait leur unicité et non leur solitude. En tout cas, tant qu'il y aura des par-lettres, nous pourrons continuer à les écouter chacun, comme ayant quelque chose d'unique à dire et qu'il ne peut pas dire ailleurs. Cela dit, les sujets ne peuvent-ils eux-mêmes souhaiter le triomphe absolu du discours du Capital pour se soulager du malaise et enfin trouver la paix ? Et il est exact que l'ivresse de la possession peut faire oublier qu'elle alimente en même temps et à proportion celle du manque. Mais aussi cette ivresse auto-alimentée peut aller jusqu'à la violence et jusqu'au coma fatal. Nous ne pouvons pas savoir jusqu'où peut aller la haine du sujet, qui est en fait la haine du corps sexué que le langage impose. Mais finalement, si nos forces se révèlent trop faibles face à l'appel collectif à la contrainte, nous savons que nous pouvons toujours compter sur l'hystérique. L'hystérique présente en chaque par l'être. Autrement dit, nous pouvons compter sur l'inconscient pour nous rassurer sur la survie de la civilisation. Quelle que soit sa forme, la division poussera toujours les corps sexués des par-l'être à se reproduire et à reproduire leur division. Je vous remercie. Bon, je passe la parole à Laurence Madapouté. Le titre de la ségrégation du haut camp, se réduire à son corps. Vous voyez qu'il va y avoir des résonances.
Oui. Sans doute, il va y en avoir. Parce que, au fond. Alors, moi, je suis partie d'une citation de Lacan que je vous lis. La troisième facticité, réelle, trop réelle, assez réelle pour que le réel soit plus bégueule à le promouvoir que la langue, c'est ce que rend parlable le terme du camp de concentration sur lequel il nous semble que nos penseurs, avagués de l'humanisme à la terreur, ne se sont pas assez concentrés. Abrégeons pour dire que ce que nous en avons vu émerger pour notre horreur représente la réaction de précurseurs par rapport à ce qui ira en se développant comme conséquence du remaniement des groupements sociaux par la science et nommément de l'universalisation qu'elle y introduit. Notre avenir des marchés communs trouvera sa balance d'une extension de plus en plus dure des procès de ségrégation. Eh bien, nous y sommes. C'est de cette phrase de Lacan donc, que je prends mon départ. Cette troisième facticité réelle, après la symbolique et l'imaginaire, Lacan la formule dans un texte qui traite du psychanalyste de l'école et de la passe. Les nazis sont des précurseurs, dit-il, dans leur réaction, leur réponse face à ce qui ira en se développant, et il se réfère là au remaniement des groupes sociaux par la science et l'universalisation qu'elle y introduit. Trois signifiants ont retenu mon attention, donc la science, la ségrégation et l'universalisation. Ces trois-là dansent une danse infernale dont le tempo est donné par le discours du capitalisme. Dire comment il se noue dans la civilisation, avec pour conséquence le dérèglement des liens sociaux, c'est ce que j'ai tenté de faire pour répondre à la demande de ce séminaire. Alors d'abord la science. Donc les quatre discours dont vient de parler Marc, qu'il a écrit et dit les fonctionnements, donc nomme quatre liens sociaux, sont orientés par la prise en considération par Lacan de la catégorie du lien social, du réel, et de ce qu'il appelle le champ lacanien, le champ de la jouissance. Je ne reviens pas donc sur l'élaboration des discours. Je préciserai simplement que donc le discours est un traitement de la jouissance. Bernard Nominé l'écrit ainsi. Cette jouissance, c'est ce que l'agent de chaque discours voudrait maîtriser, mais qui lui échappe. Donc dans le discours, il y a des places, de la circulation à l'intérieur de chaque discours et de la circulation entre les discours. On peut passer d'un discours à l'autre par rotation d'un quart de tour. Donc dans chaque discours, entre la production et la vérité, il y a une barrière de l'impossible. Avec le discours du capitalisme, donc un simple glissement, c'est écrit là-haut, transforme le discours du maître en discours capitaliste, du fait donc de l'inversion du S1 et du S barré, et de l'inversion de la flèche. De ce fait, disparaît la barrière de l'impossible entre vérité et production, et de plus, il n'y a plus de place du commandement du discours, puisqu'il fonctionne en circuit fermé et continu. Ça ne s'arrête pas. Donc, Bernard Nominet dit que c'est un faux discours. Mais les conséquences de ce glissement sont plus importantes encore. Forclusion de la castration et mise au rencard des choses de l'amour. Avec la disparition des places qui caractérisaient chaque lien social 2 à 2, ce que disait Marc, le lien social disparaît puisqu'il n'y a plus d'adresse. Et cette conséquence fait dire à Lacan qu'il n'y a qu'un seul symptôme social. Chaque individu est réellement un prolétaire, c'est-à-dire n'a nul discours pour faire lien social, autrement dit, semblant. C'est là que prend place le discours de la science, qui n'est pas un des quatre discours à proprement parler. Donc la place du discours de la science à l'intérieur, si j'ose dire, du discours du capitalisme. L'expression « discours de la science » ne peut être séparée de la construction par Lacan de la catégorie des discours et de l'invention du discours capitaliste, donc inventé en 72 à Milan. La science n'est pas le discours de la science. Sidi Ascofaré, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, définit ainsi le nouage de la science moderne comme savoir et ses effets. Je cite... Le sujet de la science et son universalisation, les objets que cette science met au jour ou produit, ses incidences symboliques, imaginaires et réelles dans la société et la culture, la ruine du maître et des signifiants, les effets de ségrégation, l'égarement des jouissances, et il ajoute, Lacan a fini par identifier la science à la pulsion de mort. D'où également toute une série de questions sur les effets d'un tel projet et de la volonté de maîtrise qui l'anime quand l'objet n'est plus la nature, mais les sujets humains et les sociétés. Et bien, quand la science s'attaque à l'humain, cela donne les camps d'extermination, enfants monstrueux du mariage de la science et de la technique dans le capitalisme. Et c'est Zygmunt Bauman qui a le mieux précisé la modernité de la Shoah dans son livre « Modernité et Holocauste ». Il y relève les liens de la science et de la technique et de l'organisation de l'État. Je cite « L'Holocauste était le résident légitime de la maison modernité et n'aurait été vraiment chez lui nulle part ailleurs. Quant à la science, elle était dépourvue de valeur. La science n'a pas de valeur. » Elle s'applique, c'est tout. On a longtemps déploré que la Shoah ait eu lieu dans un pays hautement civilisé et de grande culture. Malgré le paradoxe apparent, c'est précisément là que le pire a eu lieu, et si l'on en croit Freud, c'est bien à la hauteur de ce qu'elle a refoulé. C'est la barbarie avec la civilisation. Barbarie et civilisation s'inscrivent dans le même processus traversé par un conflit. Il ne s'agit pas d'une régression, mais de quelque chose de nouveau dans la civilisation. Les nazis sont des précurseurs. Ils se sont attaqués au corps de leurs victimes. C'est par le corps qu'on l'a, dit Lacan. Et si le prolétaire est un dépossédé du lien social, alors il est réduit à son propre corps. Et cela n'est pas sans conséquence. Alors, la ségrégation... Lacan prédit les effets de ségrégation et la montée du racisme du fait de l'universalisation, de la massification introduite par la science. Je cite « Dans l'égarement de notre jouissance, il n'y a que l'autre qui la situe. Mais c'est en tant que nous en sommes séparés, d'où les fantasmes inédits quand on ne se mêlait pas. Laisser cet autre à son mode de jouissance, c'est ce qui ne se pourrait qu'à ne pas lui imposer le nôtre, à ne pas le tenir pour un sous-développé. Si ajoutant la précarité de notre mode, qui désormais ne se situe que du plus de jouir, qui même ne s'énonce plus autrement, Comment espérer que se poursuive notre humanitairerie de commande dont s'habillaient nos exactions ? Je suppose que ça renvoie à tout le système du colonialisme. Marc Strauss définit ainsi le racisme en question. C'est le racisme des jouissances. Je cite, « Il s'agit des races de jouissance. Le racisme comme racisme des jouissances. » C'est ce qu'il, Lacan, épingle en 67 comme bafouillage sur la question. Les exactions mentionnées dans télévision trouvent là leur forme indubitablement appelée à se répéter. J'y ajoute les dernières lignes du séminaire ou pire. Sachez que ce qui monte, qu'on n'a pas encore vu jusque dans ses dernières conséquences, et qui lui s'enracine dans le corps, dans la fraternité des corps, c'est le racisme. Fraternité et racisme, cela peut sembler à une lecture paresseuse un oxymore. Pour Lacan, nous ne sommes frères de notre patient que parce que nous sommes tous des fils du discours analytique. Fraternité et ségrégation marchent ensemble, pas sans le corps. Notre avenir des marchés communs, c'est là l'extension de la ségrégation, et là la ségrégation mène au camp de concentration. Or, il ne faut pas confondre ici camp de concentration et camp d'extermination. Voilà. La distinction me semble à moi fondamentale. Mais dans l'article préface à une thèse, dans une note de bas de page, Lacan écrit que le refus de la ségrégation est naturellement au principe du camp de concentration. Là, aucune contradiction, malgré l'apparence, avec ce qui précède. Ségréguer, c'est mettre à l'écart. Le camp de concentration est le modèle de ce refus, avec son au-delà, le camp d'extermination. Baumann ne dit pas autre chose quand il constate qu'après l'ouverture des ghettos, l'assimilation rendait les Juifs indiscernables. Je cite, « La modernité nivela les différences, tout au moins leur apparence extérieure, et l'étoffe même dont sont faites les distances symboliques entre groupes séparés sur un mode ségrégatif. » Lacan enfonce le clou dans le séminaire 17. Il réfère la fraternité à la ségrégation. Je cite, « Je ne connais qu'une seule origine de la fraternité. Je parle humain. Toujours l'humus, c'est la ségrégation. » Tout ce qui existe est fondé sur la ségrégation et au premier temps la fraternité. Et encore, on n'en a jamais tout à fait fini avec la ségrégation. Rien ne peut fonctionner sans cela qui se passe ici en tant que le A sous une forme vivante, toute fausse couche qu'elle soit, manifeste qu'elle est l'effet du langage. Nous sommes isolés ensemble, isolés du reste, du fait de la jouissance. Lacan renvoie ici au mythe de Totem et Tabou, où il se découvre frère. Donc dans le séminaire L'Angoisse, Lacan, revenu des sports d'hiver, les qualifie de sorte de camp de concentration pour les vieux. La ségrégation est partout, et de qualifier l'ère de moralisation crétinisante, la période qui a suivi la fin de la guerre. De toutes ces citations, je conclus qu'il y a une ségrégation de structure, comme effet de la structure de langage et de la jouissance interdite. Les frères se découvrent-elles à cause du meurtre du père et ses conséquences sur la jouissance rejetée et interdite, de même que la mère qui est interdite, mais la jouissance des autres femmes est permise. La ségrégation de structure est issue du lien social langagier. C'est le « ensemble » mais séparé. Le discours de la science impliquerait une autre forme de ségrégation à mettre en relation aussi avec la question de l'universel. Cela peut se dire ainsi. Comment faire entrer la singularité du sujet dans l'universel qui rejette le sujet ? Reste les corps. Alors, là, j'ai enlevé tout un chapitre sur la question de l'universel parce que ça alourdissait le propos, mais je l'écrirai peut-être plus tard puisque je trouvais que c'était intéressant d'aller regarder et lire la thèse de Jean-Claude Milner sur ce que lui a à dire sur l'universel et puisqu'il vient de publier d'autres livres là cette année. Donc, je l'ai enlevé. Mais on peut en reparler après. Alors, être réduit à son propre corps. Si le lien social suppose d'ordonner les corps, c'est une citation de Colette Solaire, et que ce lien est attaqué par le discours capitaliste, et si le prolétaire n'a rien pour faire lien social, alors le sujet forclos est réduit à son propre corps. Les nazis ont été les précurseurs de cette réduction au corps. La science du moment, de l'époque, a développé des caractéristiques biologiques et raciales qui ont mené à l'eugénisme, à la suppression des corps. Il faut aussi penser qu'avant de s'attaquer aux juifs, ils ont gazé des malades mentaux, c'était le programme T4, programme qu'ils ont été obligés d'arrêter parce que les Allemands eux-mêmes ont manifesté. Qu'on pense aussi au Lebensborn, ces pouponnières d'enfants ariens. Sait-on que des centaines de milliers d'enfants de l'Est ont été capturés parce qu'ils possédaient les traits physiques de l'arianité? C'est l'avènement de la conception bouchère de l'humanité, dit Pierre Legendre, réduit l'être humain non pas à son corps, mais à un organisme, à un déchet, et dès lors disparaissent les caractères symboliques des corps. C'est un avènement pour ses précurseurs, puisque par la suite qu'on pense au viol des femmes en Serbie. Bien sûr, le viol a toujours existé, mais pas comme une arme de guerre biologique. Gérard Wajmann pensait que l'art, héritier de ce siècle, était celui qui montrait le rien, les traces. Les activistes viennois du mouvement Body Art pensaient, eux, le contraire. Ils ont donné à voir leur corps meurtri et martyrisé sur la scène, en référence à la période nazie, pour dénoncer l'absence de réflexion de l'Autriche de l'après-guerre. Plus près de nous, Orlan filme ses opérations. Alain Vanier écrit justement que la technique a modifié le corps de l'homme. On peut le modeler, le changer. Il y a une visibilité plus importante des corps, avec les piercings, les tatouages, toutes ces techniques. Est-ce là la trace, comme un retour du refoulé, laissé par les précurseurs? Aujourd'hui, au temps de ce qu'on appelle les meurtres de masse, qu'est-ce qui change? Alors, d'abord, ce sont les civils qu'on vise, comme le remarque Colette Solaire dans son séminaire, mais c'était déjà là, au temps des nazis. Alors, les bourreaux se font exploser avec leurs victimes. Ce qui m'évoque le dire d'une patiente, elle s'éclate. S'éclater, maître mot actuel de la jouissance. Si les nazis ont voulu effacer les traces de leur forfait, il me semble que ce qui diffère aujourd'hui, c'est la visibilité maximale qui est donnée à ces exactions. Les tours jumelles s'effondrent sous l'œil des caméras du monde entier et les images tournent en boucle sur tous les téléviseurs. Les djihadistes filment les décapitations et les balancent sur Internet. Cela appelle le regard et la jouissance qui y est associée, qu'on le veuille ou non. Rendre visible le réel innommable de la mort, l'horreur n'est plus masquée. Est-ce un changement de paradigme? C'est une question. Toujours, la jouissance est au premier plan. La jouissance innommable, réelle, celle qui est au centre de l'expérience analytique. Raison pour laquelle la psychanalyse ne peut pas baisser la garde. Voilà, merci.
Tu animes la discussion, s'il te plaît.
Ah oui,
hein, tu veux...
Oui. Voilà. Bon, écoutez, s'il y a des questions... Il y avait quelques points communs, hein, beaucoup de résonance, sans doute parce que l'époque actuelle nous tire, nous pose question. Donc, mais on n'est pas toujours d'accord. On a quelques divergences.
Ça ne reste pas insurmontable.